Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence, c'est le 240e numéro de Métropolez-vous et il va être consacré à un sujet souvent abordé dans cette émission, celui des transports et déplacements, qu'on regroupe désormais sous le terme générique de mobilité, une question et même un problème épineux pour toutes les grandes métropoles, encore plus dans une métropole en forte progression démographique comme les Toulouse. Autre donnée qui complique les choses désormais, l'aspect environnemental et santé, avec la nécessité de faire baisser les émissions de CO2, donc les gaz d'échappement. Tout récemment ont été dévoilés les résultats de la grande enquête mobilité réalisée sur l'aire urbaine de Toulouse, lancée à l'automne 2022, pour savoir et mieux comprendre comment se déplacent les habitants de la grande agglomération toulousaine. Une étude d'envergure donc qui n'avait pas été menée depuis longtemps et dont les enseignements vont être précieux pour évaluer la pertinence des politiques de mobilité présentes et à venir. Ce sont ces résultats et ces enseignements que nous allons partager avec vous au cours de ce numéro. J'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois à Métropolez-vous Jean-Michel Latte, adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole en charge des transports en commun et président de Tisséo Collectivité. Bonjour monsieur le vice-président et bienvenue dans cette émission dont vous êtes vraiment un fidèle parmi les fidèles, on peut le dire.
Oui, bonjour, c'est toujours un plaisir de venir ici.
Alors avant de parler des résultats de l'enquête proprement dit, pouvez-vous nous rappeler depuis combien d'années une étude de cette envergure sur les mobilités dans l'aire urbaine toulousaine n'avait pas été faite et comment il a été procédé pour la réaliser ?
Alors c'est la sixième enquête qui est lancée sur le thème, on a commencé en 1978, c'est ancien, mais là ça faisait 10 ans que cela n'avait pas été fait et donc on a lancé une très très lourde enquête sur 453 communes. Pour mémoire, la fois précédente, c'était 178 communes, donc on est vraiment sur une échelle qui a beaucoup augmenté. Et avec de nombreux partenaires, on a financé cette étude.
Voilà, alors c'est piloté, supervisé par un organisme qui s'appelle le CEREMA.
Le CEREMA, c'est un organisme d'État qui permet de certifier des études comme celles qu'on a menées, c'est-à-dire ça nous permet d'avoir la garantie que la méthode, le traitement des résultats, tout cela est fait selon les règles.
Combien de personnes ont participé à l'étude, ont répondu au questionnaire ?
16 000 personnes, c'est une étude lourde, je parlais tout à l'heure de coûts. Le coût, on ne sait pas toujours, c'est 1 million d'euros avec plusieurs financeurs, Tisséo qui est le principal financeur, mais on a aussi un gros partenaire avec la région, le département et l'État. Donc toutes les grandes structures de la Haute-Garonne ont participé à ce financement.
Les questions posées, je pense qu'il y a des grandes familles de questions.
Voilà, l'enjeu c'est d'arriver à travers nos questions à déterminer qui est interviewé, c'est-à-dire la structure de la famille, quels sont les modes de transport que la famille utilise. J'utilise le mot famille à dessein parce qu'on parle d'enquête ménage et c'est la structure des ménages de la grande agglomération toulousaine qui a fait l'objet de cette étude, avec des questions très techniciennes, hein. Ce n'est pas des questions sur l'impression, ce sont des questions sur la réalité de l'usage en transport des ménages.
L'évolution de la population entre la précédente enquête, 2013, et celle qui a été faite en 2022-2023, on sait qu'il y a une très forte progression démographique, comme je le rappelais dans mon introduction.
On était à 1,2 million, on était à 1,4 million sur la dernière étude. Bon, ce qui caractérise notre aire urbaine, hein, tout le monde le sait, c'est la forte croissance de cette aire urbaine. On gagne 15 000 habitants par an sur cette grande couronne. J'étais hier en réunion avec quelqu'un de Limoges, eux ils perdent des habitants.
Et oui.
Donc on est vraiment sur des logiques très très différentes. Toulouse a une caractéristique, c'est que c'est l'agglomération qui se développe le plus en France.
Je suppose qu'il y avait des questions communes à l'enquête de 2013 et à celle de 2023. En revanche, il y a dû y avoir de nouvelles questions qui sont apparues entre-temps en raison de l'apparition de nouvelles mobilités.
Bien entendu, ce qui fait la grande différence entre l'étude précédente et cette étude-là, c'est vraiment les modes doux. On voit exploser le questionnement sur les modes doux comme on voit exploser l'usage des modes doux. On parlera tout à l'heure des résultats, mais aujourd'hui, on ne parle plus de la mobilité, on parle des mobilités. Et je crois que ce qui fait la différence entre l'étude précédente et celle-là, c'est la diversification des modes de déplacement des habitants de la grande agglomération toulousaine.
On va rentrer bien sûr dans le détail avec vous tout à l'heure. Merci pour ces premières explications très claires. Je pense que nos auditeurs ont maintenant toutes les données en main concernant la manière dont cette enquête a été réalisée. Dans quelques minutes, nous allons donc nous pencher sur ces résultats avec vous. Pour l'instant, nous avons rendez-vous avec l'actualité métropolitaine grâce à Corinne Saint-Félix et son habituel flash d'information hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu. On commence ce flash avec une élue métropolitaine maintenue à son poste de ministre. Dominique Faure reste au sein du gouvernement de Gabriel Attal.
Oui, l'ancienne députée de Haute-Garonne et maire de Saint-Aurens de Gameville, élue de Toulouse Métropole, Dominique Faure reste ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité au sein du gouvernement Attal. Elle y avait été nommée en juillet 2023 lors de la formation du gouvernement d'Elisabeth Borne. L'ancienne députée de Haute-Garonne est également ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Son maintien a été annoncé après la nomination de la Toulousaine Nicole Belloubet au ministère de l'Éducation nationale.
Moins réjouissant en revanche pour le petit monde politique local, après la condamnation de Laurence Arribagé, un grand remaniement a dû avoir lieu au Capitole.
Oui, par qui remplacer Laurence Arribagé, ancienne adjointe au sport à la mairie de Toulouse, déchue de tous ses mandats d'élu après sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité, assortie d'une exécution provisoire. La mairie a opté pour une répartition des délégations de l'ancienne élue au niveau municipal et métropolitain. C'est Henri Delagoutine qui gère les ressources humaines de la mairie qui, en plus de sa délégation, est chargée de la coordination des politiques sportives, des manifestations sportives et grands événements sportifs, des relations avec les clubs professionnels et les parcours sportifs le long des voies d'eau. Anna Maria Tripicchio-Rogier est chargée de l'accueil des nouveaux Toulousains et de l'amélioration de la qualité de la vie face aux nuisances. Et Claire Nison, en plus de la lutte contre le logement insalubre, l'habitat indigne et dégradé, la sécurité des bâtiments et les immeubles menaçants, ruines et des ravalements des façades, sera elle chargée de la bonne tenue des chantiers organisés par des opérateurs privés.
Des nouvelles maintenant de la tour Occitanie qui devrait, semble-t-il, voir le jour, Corinne.
Eh bien oui, parce que la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté ce jeudi 15 février le dernier recours des opposants à la tour Occitanie. Elle a confirmé la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société compagnie de Phalsbourg un permis de construire un immeuble de grande hauteur. Alors, situé à proximité de la gare de Toulouse-Matabiau, sur le site de l'ancien centre de tri postal, ce grand projet immobilier prévoit la réalisation d'une tour d'une hauteur de 150 mètres comportant 40 niveaux, une structure qui devrait être visible depuis toute l'agglomération toulousaine, Eric.
Et puis, puisque l'on parle de mobilité, de transport et déplacement aujourd'hui dans cette émission, sachez que Téléo est à l'arrêt pendant plus d'une semaine.
Depuis ce vendredi 16 février, le téléphérique Téléo est à l'arrêt pour une durée de 10 jours. Des opérations de maintenance doivent être conduites. Le téléphérique doit, durant ses vacances d'hiver, subir des opérations de maintenance. Le câble d'un téléphérique urbain s'allonge au début de son exploitation avant de se stabiliser dans le temps. Il s'agit d'un phénomène connu et commun, Ticeo. Des techniciens spécialistes de ce type d'opération interviendront pour réaliser les opérations de raccourcissement du câble dans le but de le retendre. Les voyageurs qui empruntent le plus long téléphérique urbain de France, il relie Loncopole à l'université Paul Sabatier via l'hôpital de Rancueil, doivent donc s'adapter.
Merci Corinne Saint-Félix pour ce flash d'information. Jean-Michel Latte, je suppose que vous voudrez réagir et peut-être apporter quelques précisions à la dernière information, l'arrêt donc de Téléo pendant une semaine.
Voilà, on a choisi une semaine particulière qui est la semaine des vacances universitaires, puisqu'on a quand même Paul Sabatier qui est en plein cœur de Téléo, donc on a profité de cette semaine pour lancer cette opération. C'est une opération de physique, c'est-à-dire que le métal s'allonge avec le temps, jusqu'à ce qu'il se stabilise, et donc c'est la correction de cet allongement qui est réalisée, étant entendu qu'ensuite le câble sera définitivement stabilisé dans sa structure.
Et donc il n'y aura plus besoin d'y retoucher ensuite, et voilà. On peut vraiment confirmer à ceux qui nous écoutent que c'est une opération entre guillemets banale, oui, et nécessaire, mais qui ne présente pas de dangerosité particulière pour la suite.
Les stations de ski connaissent bien ça, puisque les téléphériques qui ont été mis en place ont connu la même forme de traitement.
Eh bien, merci pour ce complément à la dernière information du flash de Corinne Saint-Félix. On revient maintenant au sujet principal de cette émission, les résultats et les enseignements de la grande enquête sur les mobilités dans l'agglomération toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec mon invité Jean-Michel Latte, adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole en charge des transports en commun et président de Tisséo Collectivité. On va commencer par une vue générale sur l'enquête réalisée entre septembre 2022 et février 2023. Quels résultats, quels constats a-t-elle mis en évidence concernant les mobilités dans l'aire urbaine toulousaine ?
Alors, on a de grandes évolutions qu'il faut traiter. Alors, la voiture reste le premier moyen de déplacement, mais avec des logiques différentes. C'est-à-dire, quand on est sur l'hypercentre toulousain, la voiture perd énormément de parts de marché. Par contre, quand on est sur ce qu'on appelle la deuxième ou la troisième couronne, on est éloigné des axes de transport en commun parfois, là, la voiture reste dominante. Donc, il y a cette différence entre chaque couronne où on a des pratiques différentes. Si on raisonne globalement, on a une baisse permanente de l'usage de la voiture qui est confirmée. On parle même de l'abandon pour une part des ménages de la fameuse seconde voiture, ce qui est intéressant. On a une forte hausse de la marche à pied. On ne parle pas assez de la marche à pied, mais si on regarde le centre de Toulouse, par exemple, on a aujourd'hui une rue d'Alsace piétonne qui autrefois était pratiquée en voiture et en bus. Donc on est sur un autre système. On a une hausse très significative du vélo, puisque la part vélo double. Alors ça reste insuffisant.
Entre les deux enquêtes.
Hein. Entre les deux enquêtes, oui. Ça reste insuffisant en valeur absolue. Plus on ira haut, mieux on se portera. Et puis, on retrouve la part importante des transports en commun, qui elle aussi devrait progresser avec, en particulier, le lancement de la ligne C et la réorganisation du réseau bus qui va accompagner ce lancement.
Concernant la pratique de la marche, la hausse est de 30% entre les deux études, donc sur cette période de 10 ans. Et puis la part des ménages disposant de deux véhicules a baissé de plus de 15%. Et effectivement, ça corrobore et ça confirme ce que vous nous disiez. Est-ce qu'on constate une corrélation entre l'évolution démographique et l'évolution des modes de déplacement ?
Alors l'évolution démographique, elle a une conséquence, c'est le besoin en logement. Et l'augmentation des zones de logement se traduit en augmentation des mobilités, hein, c'est lié. Aujourd'hui, on sait qu'il manque à Toulouse plus de 40 000 logements, hein, en particulier des logements sociaux. Donc on a cette donnée qui est une donnée de base de notre étude, à savoir que l'augmentation de population génère des besoins en logement qui eux-mêmes génèrent des besoins de déplacement. Tout cela est corrélé.
Est-ce qu'il y a des résultats inattendus ou surprenants dans cette enquête ?
Alors, pas vraiment. Je trouve que le chiffre de 6% sur Toulouse pour le vélo me semble un peu sous-estimé.
Mais
oui, moi je suis cycliste et je n'ai jamais vu autant de vélos que ces derniers mois sur Toulouse. Donc je pense qu'il y a peut-être un effet accélération qui peut-être était postérieur à la phase de l'étude, je ne sais pas. Mais il me semble aujourd'hui que cette part augmente. En tout cas, c'est la perception que j'ai dans mon quotidien. Mais pas de grande surprise à part ça.
Est-ce qu'on constate que certaines zones de l'aire urbaine toulousaine ont des résultats très différents, ou en tout cas sensiblement différents de la majorité des autres, ou est-ce qu'il y a une certaine homogénéité tout de même ?
Alors moi, je considère qu'il y a une forme d'homogénéité par couronne. C'est-à-dire, on a l'hypercentre toulousain, on a la première couronne, on a la deuxième couronne, la troisième couronne. À l'intérieur de chaque couronne, on a des chiffres qui sont assez identiques, parce que finalement, on est sur un habitat qui se ressemble, qui est un peu le même. Hein. Quand on est sur la troisième couronne, on est sur un habitat dispersé, sur des petites unités, alors que plus on se rapproche de Toulouse, plus on augmente la densité de population. Il y a quand même un chiffre intéressant qui peut nous amener à réfléchir, c'est le niveau de pollution. Le niveau de pollution le plus important, c'est la première couronne, puisqu'on a à la fois des déplacements nécessaires et une forte densité de population.
Pour l'élu en charge des transports en commun que vous êtes, pour le président de Tisséo Collectivité que vous êtes, quels sont les enseignements principaux que vous tirez de cette enquête ?
On est sur un projet lancé, nous, qui est le projet de la ligne C. La ligne C, c'est un outil en soi de transport, mais c'est aussi un outil majeur de multimodalité. Donc ce que nous incite à faire cette étude, au-delà de la ligne C qui va jouer pleinement son rôle, c'est de réfléchir à la réorganisation du réseau bus. Moi, je reste persuadé que le bus reste un outil très important de déplacement. Et donc on a lancé avec les maires des communes autour de Toulouse une vaste réflexion de réorganisation du réseau bus. Pourquoi ? Quand on a lancé la ligne B de métro, on a supprimé 400 passages de bus sur la rue d'Alsace par jour. On n'a pas supprimé les bus, on les a réorganisés et donc on va avoir... À partir du lancement, j'y arrive en 28, après le lancement de la ligne C, on aura un nouveau réseau bus qui aura été complètement réorganisé et fortement densifié. Et donc, on peut espérer que cette fonction de rabattement, elle va être optimisée avec le nouveau système. Et cette étude nous montre combien il est nécessaire de bien remailler le réseau bus, en particulier sur la deuxième et la troisième couronne.
Je pense aux déplacements domicile, lieu de travail. Qu'est-ce qu'on a constaté là sur les évolutions en 10 ans ? Est-ce qu'ils sont moins longs qu'avant ? Aussi bien en temps qu'en kilomètres ?
Comme Toulouse connaît une croissance économique forte, la distance domicile-travail, c'est une des clés du dispositif. La ligne C, c'est la ligne de l'emploi. Contrairement à la ligne A et la ligne B, la ligne C, elle essaye de capter les grandes structures d'emploi du dispositif. Donc ce qu'on constate, c'est que c'est sans doute la voie qu'il faut suivre, parce que c'est là que le chiffre toulousain est le moins bon, le domicile-travail. Donc avec cette troisième ligne qui est la ligne de l'emploi, avec le remaillage du réseau bus, on peut espérer avoir de meilleurs chiffres. Aujourd'hui, un salarié sur trois est en connexion avec un système lourd de déplacement. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à 2 sur 3.
Qu'est-ce qui transparaît, après les conclusions de l'enquête, des aspirations des citoyens en termes de mode de déplacement ? Qu'est-ce que l'enquête a mis en évidence ?
Il y a une aspiration au mode doux, c'est une évidence, avec une demande d'aménagement. Un des freins, on le sait, par exemple, la pratique du vélo, ça reste les aménagements vélo. Il suffit de regarder aujourd'hui la rue de la République, le Pont Neuf, la place Esquirol pour voir que quand un outil est en place, il marche. Moi, je suis frappé des masses de vélos. Tous les matins, je passe par le Pont Neuf. Le nombre de cyclistes sur le Pont Neuf aujourd'hui, qui traduit des déplacements longs, est assez important. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier non plus la marche à pied. Et en cela, je pense que le réaménagement de la rue de Metz est important parce qu'on va ouvrir des espaces aux piétons. Et puis, il y a le besoin de transport en commun. Les gens renoncent à la voiture quand ils ont une alternative efficace en transport en commun. S'ils mettent 3 fois plus de temps en transport en commun qu'en voiture, ils ne prennent pas les transports en commun. Donc, on a cette réflexion-là. On a un gros projet qui va émerger dans les semaines qui viennent, c'est la ligne express Muret-Toulouse. C'est un nouveau concept, des lignes qui ne s'arrêtent que très peu, uniquement là où il y a de la population, pour permettre d'aller d'une zone de population à une autre zone de population. Ça fait partie des multiples outils qu'il faut mettre en œuvre pour être efficace.
Est-ce qu'il y a des manques, des retards ou des critiques qui sont apparues dans les réponses des citoyens et les résultats de l'enquête ? En gros, quel est le degré de satisfaction aujourd'hui des citoyens sur l'offre de transport qu'on leur propose ?
Alors, l'enquête ne traduit pas un sentiment. L'enquête, c'est plutôt une photographie objective d'une donnée. Donc, on n'a pas... Mais on peut, à la déduction de ce qui est dit, très facilement imaginer quelles sont les demandes. C'est une demande de mode alternatif de déplacement. C'est la valorisation de la marche, du vélo, des transports en commun. C'est ça qui est au cœur de cette enquête. La voiture n'est pas rejetée dans l'enquête, mais sa part apparaît comme trop importante.
Ah, il y a une chose qu'on n'a pas abordée, on parle toujours de la progression démographique, de l'évolution de la population toulousaine donc, qui augmente beaucoup chaque année. Mais je pense qu'il y a aussi, au-delà de l'aspect quantitatif, il y a un aspect sociologique. Je pense que la sociologie de la métropole change, de la population de la métropole change. Il y a un rajeunissement d'abord, et je pense que c'est des gens qui sont peut-être plus sensibles à toute la problématique environnementale et justement à la possibilité d'avoir recours aux modes de déplacement dits doux, notamment le vélo.
On a un exemple parfait, c'est l'exemple de la zone aéronautique, Airbus et compagnie, qui est une zone d'activité, donc d'emploi. On a développé le réseau de voies cyclables. Ben, c'est peut-être l'endroit où il rencontre le plus grand succès. Avec un profil type, l'ingénieur, la quarantaine, qui décide d'abandonner la voiture pour passer à des modes plus conformes à sa réflexion, à sa perception des choses. Et aujourd'hui, ces voies cyclables sont en pleine explosion parce qu'on est en cœur de cible par rapport aux personnes qui se déplacent comme ça. Il faudra quand même faire attention à développer les modes doux ailleurs que dans ces zones-là, c'est-à-dire essayer de capter d'autres strates de la population.
On y vient à cet aspect des choses. Est-ce que les résultats de l'enquête et les enseignements que vous en tirez vous confortent dans le plan mobilité de Toulouse Métropole tel qu'il a été lancé et votre politique générale en matière de déplacement, ou est-ce qu'ils peuvent les remettre en cause pour certains aspects?
Je crois qu'on reste sur les fondamentaux, donc on va aller dans le même sens hein, que l'étude, que l'enquête. Ce qui interpelle toujours les politiques, c'est l'accélération des choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en phase avec les évolutions qui sont considérables aujourd'hui des perceptions de la population. Donc il faut accélérer, mais je veux dire que c'est inhérent à toute politique publique de transport. On ne va jamais assez vite,
oui.
Il faut accélérer. Toulouse reste la ville qui a le plus grand chantier à part l'Île-de-France en matière de transport, avec la ligne C du métro. Donc on est sur une orientation qui me semble adaptée aux demandes de cette étude. À nous, dans les années à venir, d'accélérer encore.
Justement, on évoquait le point environnemental. Est-ce que l'enquête, les évolutions constatées vont dans le bon sens de ce point de vue?
Oui, parce que chaque fois qu'on développe les dispositifs, on a des baisses de problèmes de particules et autres. François Chollet, notre élu en charge de l'environnement, est très très attentif à ça et il nous a présenté assez récemment des résultats tout à fait encourageants sur la mortalité liée à
la qualité de l'air,
etc., etc. On est sur une bonne tendance avec une tendance baissière sur la pollution. Jamais suffisante. Il faut continuer, il faut aller plus loin. Et je pense qu'on aura un effet ligne C avec plus de 90 000 véhicules qui sont susceptibles de basculer vers l'usage du métro. Donc c'est cette tendance qu'il faut accentuer, mais il faut aller plus vite, il faut toujours aller plus vite, même si l'effort réalisé à Toulouse est quand même très significatif.
Concernant l'enquête sur les mobilités, un rapport détaillé est attendu pour le mois de mars, donc très bientôt. Un rapport final sera publié avant l'été.
Oui.
Et vous allez continuer à communiquer sur tous ces points.
On a un vaste plan de communication qui suit un petit peu notre capacité à analyser les résultats obtenus. Donc on va avoir à la fois des focus sur des points précis et puis une enquête qui va être décortiquée de manière beaucoup plus précise que cette première approche. Là, on a publié 8 pages mettant en évidence les grandes tendances.
C'est très statistique. Hein,
voilà, il nous faut maintenant rentrer dans le détail. C'est l'intérêt de cette étude très complète, c'est qu'elle nous permet d'aller très loin dans le détail.
Alors, puisque vous êtes là aujourd'hui, je vais en profiter pour faire, avez-vous un point sur le chantier de la troisième ligne de métro pour terminer cette émission? Où en est-il? Est-ce qu'il avance selon le calendrier prévu?
Parfaitement. On a lancé le premier chantier en décembre 2022. En 2023, on a une quarantaine de chantiers qui se sont installés sur toute la métropole. Hein. On est sur 27 km, 21 stations. Donc les chantiers sont démultipliés, nombreux, on les retrouve un peu partout. Avec un calendrier parfaitement respecté, on a réceptionné le mois dernier le premier tunnelier à Ramonville, celui qui prolonge la ligne B, et on a les 5 tunneliers qui arrivent. Donc le premier, c'est Clément Cizor, hein, puisque ce sont des noms de femmes qu'on a donnés à tous ces tunneliers en lien avec l'Académie des Jeux Floraux. Et on est actuellement dans la phase où on finit ce qu'on appelle les parois moulées, c'est-à-dire quand on est sur une station, on crée un énorme cube en béton. Et une fois que le cube est fait, on creuse à l'intérieur. Et c'est cette transition qui est en train d'opérer. Il n'y a pas eu d'incident de chantier particulier. Donc on est parfaitement conforme aux prévisions qui ont été données.
Aussi bien en termes d'échéanciers que de coûts budgétés.
Alors le coût, c'est un problème permanent. On est aujourd'hui en recherche permanente de stabilisation des coûts. On n'a pas de dérapage particulier, heureusement.
Voilà, donc l'échéance de livraison, c'est toujours fin 2028.
Oui.
Pour l'ouverture au public de cette troisième ligne. Un mot aussi sur les désagréments qui inévitablement sont liés à la construction d'une ligne de métro et des stations dans les zones concernées. Pour l'instant, ça se passe, j'allais pas dire aussi bien que possible, le moins mal possible.
Oui, on a mis en place un système lourd de médiation. Sur tous les chantiers, on a des médiateurs qui sont à l'écoute. On a mis en place une information permanente des entreprises qui travaillent. Dès qu'on a le moindre incident, le moindre problème, on réagit. C'est un chantier considérable, c'est le plus gros chantier qu'ait jamais connu l'agglomération toulousaine. Donc dire que rien ne sera pénalisant, c'est faux. Par contre, on essaye d'être le plus réactif possible. Et puis, je trouve quand même que les Toulousains ont une forme de patience.
Et par de sagesse, à... de
oui,
sagesse aussi.
Je crois que les gens savent que derrière, il y a un outil qui va favoriser leur mobilité. Toulouse va devenir une des agglomérations, peut-être l'agglomération la plus mobile de France à part Paris. Donc, l'enjeu, je crois, est intéressant et permet aux gens d'être patients.
Et puis, pour terminer, petit détail archéologique, est-ce qu'on est tombé, comme ça arrive bon, souvent quand on creuse le sous-sol à Toulouse, sur des vestiges archéologiques remarquables ou des objets insolites ?
Alors, sur l'extension de la ligne A, on avait trouvé à Jean Jaurès une mâchoire de rhinocéros. C'était assez étonnant de penser qu'à proximité du bar Les Américains, on avait des rhinocéros autrefois. On n'a pas trouvé cela. On est sur un chantier qui est plus externe que les chantiers précédents. La seule chose qu'on a pu noter, mais on le savait, c'est qu'on a trouvé des nécropoles sur la station François Verdier. Mais c'était quelque chose qui était connu
était
et
connu.
Prévu. Voilà.
Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci infiniment, Jean-Michel Latte, d'avoir été l'invité de cette émission et de nous avoir fait ce panorama des résultats de l'enquête sur les mobilités dans la grande agglomération toulousaine et des enseignements que l'on peut en tirer. Comme d'habitude, c'était très clair, très synthétique.
Merci.
Pour ceux qui voudraient avoir accès aux détails de cette étude, je signale qu'elle est disponible sur le site de Tisséo Collectivité, oui. www.tisseo-collectivité.fr. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et un excellent week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.